Je précise d'abord le cadre analytique dans lequel vont être construits nos modèles destinés à analyser les effets de la politique budgétaire, et en particulier dans l'un des modèles, les effets de la politique budgétaire sur le chômage involontaire. Faisons-le à partir de ce schéma. Voici nos trois acteurs et les flux monétaires qui circulent entre eux. Les ménages reçoivent des entreprises la rémunération du travail et du capital, c'est-à-dire la totalité de la valeur ajoutée, donc le PIB. Ils sont prélevés d'un montant de taxes T par l'État qui, lui, adresse aux entreprises une demande G de biens publics. Les ménages divisent alors, c'est leur comportement d'épargne, leur revenu disponible après impôt en deux parties. Une partie sert à acheter aux entreprises la consommation finale des ménages, et l'autre est prêtée sur les marchés financiers, à la fois aux entreprises pour financer l'investissement des entreprises dans la période et à l'État pour financer une éventuelle augmentation de ses dépenses G en biens publics. Ces acteurs sont donc coordonnés par deux marchés, le marché du travail, qui détermine l'emploi et le salaire, et le marché des titres, par lequel les ménages prêtent aux États et aux entreprises, qui détermine le taux d'intérêt. Salaire et taux d'intérêt sont donc les deux seuls prix considérés dans ce cadre analytique. On suppose en effet, pour simplifier, que la politique monétaire, hors modèle, maintient le prix des biens stables, pas d'inflation donc. Nous voulons construire deux modèles pour étudier les effets d'une politique budgétaire où l'État augmente les dépenses publiques, soit en augmentant les impôts, soit en augmentant la dette publique. Ce sont les variables de commande de l'État. Ces deux modèles diffèrent par les hypothèses de fonctionnement des marchés et les hypothèses de comportement des acteurs, les ménages et les entreprises. Ces différences vont donner des effets très différents quant aux décisions de politique budgétaire. Dans le premier, le modèle classique, les deux marchés, le marché du travail et le marché des titres, fonctionnent comme des marchés parfaits et fixent un prix d'équilibre qui équilibre offre d'achat et offre de vente de travail et de titres. Dans ce modèle classique, il n'y a donc pas de chômage par définition. Le chômage ne peut venir que de la fixation par l'État d'un salaire minimum supérieur à ce que serait le salaire d'équilibre. À ce niveau de salaire, il y a un écart entre le travail demandé par les entreprises, qui diminue quand le salaire augmente, et le travail proposé par les ménages, qui lui augmente quand le salaire augmente. Quant aux entreprises et aux ménages dans ce premier modèle, ils épargnent et investissent uniquement en fonction du taux d'intérêt I qui se fixe sur les marchés financiers. Dans notre second modèle, qui est un modèle keynésien, il existe de fortes imperfections de marché sur les deux marchés que nous considérons, celui du travail, mais aussi les marchés financiers. De plus, les entreprises et les ménages se comportent différemment par rapport à leur comportement dans le premier modèle. Les ménages dans leur décision d'épargne et les entreprises dans leur décision d'investissement. Voyons maintenant les effets d'une politique d'augmentation des dépenses publiques dans chacun de ces modèles. Dans le modèle classique, une augmentation des dépenses publiques de l'État a des effets différents selon comment elle est financée. Si elle est financée par une augmentation des impôts, elle se substitue à une consommation privée qui diminue d'autant. Si elle est financée par emprunt sur les marchés financiers, elle fait monter le taux d'intérêt I sur ce marché et elle diminue l'investissement privé. La question de l'opportunité de ce genre de politique d'expansion budgétaire suppose donc de répondre à deux questions. Plus de consommation publique et moins de consommation privée est-il jugé préférable ou pas par les ménages? Et deuxième question, l'investissement public est-il plus productif socialement que l'investissement privé? Mais remarquons-le bien, cette politique n'a aucun effet sur le chômage par construction même du modèle. Pas de chômage ne signifiant cependant pas un taux de chômage zéro, mais un taux de chômage appelé structurel, dont il reste à expliquer ce qui le détermine. Nous le verrons au chapitre suivant. Le second modèle est un modèle keynésien. Il repose, on l'a dit, sur des hypothèses différentes de fonctionnement des marchés et de comportement des acteurs. Les prix sont fixes sur le marché du travail, c'est-à-dire que les salaires ne baissent pas en valeur nominale. C'est une imperfection de ces marchés et par conséquent, les entreprises n'embauchent que si la demande qui s'adresse à elles augmente. Et elles embauchent proportionnellement à cette augmentation de la demande. Si la demande est insuffisante, on peut avoir du chômage involontaire. Des individus veulent travailler au taux de salaire du marché, mais les entreprises n'embauchent pas parce que la demande qui s'adresse à elles est insuffisante. De leur côté, les ménages, au lieu d'épargner uniquement en fonction du taux d'intérêt I sur le marché financier, sont supposés épargner une part constante de leurs revenus disponibles après impôt. Enfin, autre différence de comportement, dans ce modèle keynésien, l'investissement des entreprises n'est pas lié au taux d'intérêt I sur le marché financier, car les entrepreneurs sont supposés investir essentiellement en fonction de leurs anticipations de l'avenir et très secondairement en fonction du taux d'intérêt. En conséquence, l'investissement des entreprises peut être considéré comme une variable exogène au modèle. Il est déterminé par ce que Keynes appelait les esprits animaux des capitalistes. Dans ce modèle, il peut y avoir un chômage involontaire. Lorsque la demande qui s'adresse aux entreprises, et donc la production des entreprises, est trop faible pour employer tous ceux qui souhaitent travailler au prix en vigueur sur le marché du travail. Ces conditions peuvent se produire quand les perspectives d'avenir des entreprises s'assombrissent et qu'elles diminuent leurs investissements. L'État peut alors se substituer à la demande défaillante des entreprises en augmentant les dépenses publiques. Voyons comment, dans ce modèle keynésien, circule le surcroît de demande publique et quels sont ses effets sur le PIB et sur le chômage involontaire. La circulation de la dépense publique supplémentaire engendre des revenus supplémentaires pour les ménages. Ils en épargnent une partie fixe, nous l'avons dit, et consomment le reste, ce qui crée une demande supplémentaire, et ainsi de suite. À la fin du processus, on a une augmentation du PIB, une augmentation de l'emploi et miracle, une épargne supplémentaire qui permet de financer exactement le déficit budgétaire initial. Dans ce modèle, si l'objectif est de réduire le chômage involontaire, il est donc justifié que l'État augmente ses dépenses quand la demande est insuffisante. En revanche, s'il augmente ses dépenses en situation de plein emploi, cela ne provoquera que de l'inflation. Et dans la réalité, naturellement, cette relance par la demande, identique en cela à une relance monétaire, se partagera en relance de la production, si les capacités de production, en particulier s'il y a des employés disponibles, et un peu d'inflation. Mais cette relance se traduit aussi par un endettement plus élevé de l'État. On voit bien que si ces deux modèles diffèrent à ce point dans les dynamiques qu'ils décrivent, c'est qu'ils sont en réalité adaptés à des temporalités très différentes. Le modèle keynésien est bien adapté au court terme, une ou deux années. À cet horizon, en effet, le marché du travail est pratiquement rigide. Les salaires nominaux ne baissent pas et les entreprises sont très sensibles aux anticipations. Le modèle classique, quant à lui, est plus adapté au long terme, où les prix finissent par s'ajuster. Il est clair qu'un chômage involontaire important finit par peser sur les salaires réels. La confrontation de ces deux modèles exige donc d'approfondir deux questions de nature dynamique. Les effets d'une relance keynésienne sur le chômage sont-ils durables? Et jusqu'où peut-on réduire le chômage structurel? Et deuxième question, quelles sont les limites de l'endettement légitime de l'État? Ce fut l'objet du débat sur le chômage entre keynésiens et monétaristes à partir des années 60. Et cela prend aujourd'hui la forme de l'opposition entre les politiques dites de l'offre et les politiques dites de la demande. Ces questions de dynamique économique feront l'objet des deux chapitres suivants.